Le Club de Tamani.
Le Club de Tamani.
Votre émission de tous les vendredis soirs sur Studio Tamani.
La culture.
Le sport.
La musique.
Les infos.
L'émission qui vous informe, cultive et divertit.
Le Club de Tamani.
Tous les vendredis à 18h15.
La culture est un trésor inépuisable, un voyage sans fin à la découverte de l'humanité et de sa créativité. Bienvenue au club où chaque vendredi, nous vous invitons à explorer un nouvel univers. Ce soir, préparez-vous à un voyage captivant à travers le pays d'Ogon. Nous allons examiner en détail les multiples facettes de cette riche culture. De l'artisanat à l'architecture, en passant par la gastronomie et les autres pratiques culturelles. Le pays d'Ogon abrite une architecture phénoménale avec une capacité d'adaptation incroyable et un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous nous interrogerons sur les sources d'inspiration de ces techniques de construction traditionnelles et les rituels du masque d'Ogon ainsi que l'organisation sociale de cette région. Au cours de cette émission, nous examinerons également comment certains pans de la culture d'Ogon évoluent face au temps et à la modernité. Nous serons édifiés face à toutes ces interrogations par M. Binogo Wulegem, premier secrétaire aux arts et à la culture de l'association Dina d'Ogon. Nos chroniqueurs sont prêts également à vous émerveiller et la partie technique est assurée par Mamadou Ouattara. Aïssata Diarra et Lala Diarra Touré seront au micro pour la présentation. Merci pour votre constante fidélité. Bonsoir à tous. La plus belle. Aïcha, bonsoir. Comment vas-tu?
C'est toi la plus belle. Je vais bien, Lala, de ton côté.
Oui, ça va. Nous allons entamer la dernière ligne droite du mois de Ramadan. J'espère que tu tiens.
Oui, comme tu l'as dit, c'est bientôt la fin, donc on gère.
Ceci dit, nous allons partir en musique.
Pour la première sélection musicale, nous allons faire honneur au Dogon, Lala.
Oui, Aïcha, nous allons écouter Dene Isebere qui nous chante Ogopo.
Ogopo de Dene Isebere, c'est le titre que nous venons d'écouter. Il est sorti en 2001. Nous allons continuer, Lala.
Oui, Aïcha, mesdames, messieurs, à présent, tendez bien l'oreille car il arrive, oui, l'homme qui lit le plus de journaux dans cette rédaction. Il s'agit bien sûr de Moussa Malé Sissoko qui va nous décrypter l'actualité de la semaine.
La revue de la presse.
Bonsoir Moussa Malé Sissoko.
Bonsoir Aïssata Diarra, bonsoir Lala Diarra Touré.
Alors, Moussa Malé, ravi de te recevoir dans ce studio. Que devons-nous retenir de l'actualité de cette semaine?
À la une des journaux cette semaine, la libération des servitudes et lits de cours d'eau à Bamako. Les journaux ont largement traité ce sujet.
Un seul titre pour cette revue de la presse, nous t'écoutons donc.
Effectivement, Lala Diarra Touré, une grande opération de libération et d'aménagement des collecteurs naturels de Bamako est envisagée. Les autorités ont décidé de prendre des mesures strictes pour libérer les lits des marigots avant l'hivernage. L'initiative vise à prévenir les inondations récurrente à Bamako pendant les fortes pluies et à rétablir l'ordre dans l'occupation des domaines publics, explique le site Mali Actu. Cet autre site à Bamako abonde dans le même sens. L'occupation illicite des domaines publics et privés de l'État est devenue un problème majeur au Mali, notamment dans le district de Bamako. À en croire le site, ces occupations concernent non seulement les servitudes des cours d'eau, mais aussi les emprises ferroviaires, les forêts classées, les zones agricoles, les et les équipements collectifs. Le quotidien privé Info Matin barre à sa une bientôt une vaste opération de déguerpissement. Une commission nationale a déjà été mise en place et elle prendra toutes les dispositions utiles afin de libérer les servitudes et les lits des marigots selon Info Matin. Mali Tribune annonce un plan de déguerpissement avant l'hivernage. Selon le Bi hebdomadaire, après deux grandes inondations, l'État a décidé de prendre les taureaux par les cornes. L'annonce a été faite vendredi dernier par le directeur national de l'urbanisme, Mamadou Wologem, à la faveur d'une conférence de presse. Le quotidien privé indépendant précise que cette opération concerne plus de 700 occupants. Dans sa parution du 17 mars, le journal souligne que les occupations illicites des servitudes de marge latérale de cours d'eau sont à l'origine de nombreuses inondations. Elles sont effectuées, poursuit l'indépendant, en violation des schémas directeurs d'urbanisme sectoriel et des plans d'urbanisme opérationnel des zones concernées. Cette opération de libération concerne 11 servitudes et lits de cours d'eau non flottables. Va coûter plus de 3 milliards de francs CFA, dont 800 millions de francs CFA pour les travaux de démolition, rapporte le Bi hebdomadaire 22 septembre. Les Zénith Balais, un autre Bi hebdomadaire, ajoute que cette démolition va toucher à toutes les constructions situées à moins de 10 mètres des marigots et à 25 mètres des cours d'eau flottant. Le quotidien privé Le Républicain se veut plus précis. Pas d'indemnisation, mais des mesures d'accompagnement. Dans son numéro du 20 mars 2025, le journal souligne qu'il n'est pas prévu d'indemnisation, mais des mesures d'accompagnement pour les familles en location et les propriétaires de maisons qui seront concernés. Pour ce faire, poursuit Le Républicain, une somme de 113 millions de francs CFA a déjà été dégagée par le ministère de l'Économie et des Finances pour les déguerpir pendant 3 mois. Et c'est tout, Lala Diarra Touré, pour cette page.
Merci beaucoup, Moussa Malé Sissoko.
Et à tout à l'heure pour la version en Bamanankan.
Enchaînons à présent avec les coulisses de l'info.
Les coulisses de l'info.
Dans la rubrique éducation aux médias, ce soir, nous allons parler du journalisme sensible au conflit, Lala.
Oui, Aïcha, dans le contexte du Mali, où le journaliste est amené à informer un public diversifié, dont certains sont souvent au cœur de ces conflits, il est important de parler de cette notion.
Alors Lala, pour comprendre davantage la notion, je te propose que l'on écoute ensemble Salif Sanogo, ancien directeur général de l'ORTM.
Le journalisme sensible au conflit, c'est un journalisme qui fait attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, surtout dans une zone en conflit. C'est-à-dire le choix des mots, le choix du vocabulaire et surtout le type de message véhiculé. Donc tout cela fait partie du journalisme sensible au conflit.
Vous formez aussi les acteurs de médias au journalisme sensible au conflit. Et récemment, vous avez formé des journalistes dans ce sens-là. Quelles sont les notions que vous dispensez à travers vos modules aux journalistes?
Il y a le module global même consacré au journalisme sensible au conflit, mais il y avait également comment est-ce qu'un journaliste doit se comporter sur un terrain de conflit. En cas d'attaque contre ton hôtel ou bien contre ta rédaction, quelles sont les précautions qu'il faut prendre, où se réfugier et quel type de secours peut-on apporter? On a vu cela, mais on a surtout vu l'éthique et la déontologie du métier. Parce que tout part de là. L'éthique et la déontologie, c'est indispensable. On a également vu aujourd'hui, en cette période de viralité des réseaux sociaux, comment faire attention aux fake news et surtout les deepfakes. Les deepfakes avec les vocaux et les vidéos qui sont souvent plus réels que faux. Donc ce sont tous cet ensemble qu'on a vu, plus la loi 056 consacrée donc la lutte contre la cybercriminalité.
Comment est-ce que vous avez senti les journalistes qui ont participé à ces formations?
Il y avait beaucoup d'engouement. Ils avaient vraiment envie d'apprendre et on sentait vraiment cette motivation. Mais surtout, ce qui les a beaucoup plu, ce sont les exercices pratiques qu'on a eu à faire. Parce que faire des formations aujourd'hui en mode théorique, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Un journaliste, c'est uniquement la pratique. Et ces exercices, ils ont même exigé que les prochaines fois, qu'on puisse avoir plus de jours d'exercice que de théorie.
Qu'est-ce qu'un journaliste doit faire pour participer à l'apaisement du climat social?
Le journaliste doit jouer son rôle, convenablement son rôle. Je vous donne deux exemples très rapidement. Vous savez, la tristement célèbre radio Mille Collines, tout le monde a entendu parler de cette radio. Et elle a joué un rôle négatif, plus de 800 000 Tutsis tués. Mais avant radio Mille Collines, il y a eu déjà ce qui s'est passé à Timișoara, c'est une ville roumaine. En Roumanie, on voulait se débarrasser du dirigeant qui n'arrangeait pas beaucoup les Occidentaux. Et on a imaginé un charnier. En sortant des corps de la morgue, on les a entassés pour montrer que c'est un charnier que Ceausescu a fait avec sa police militaire. Et les populations se sont soulevées dans la capitale. Ils sont partis au palais présidentiel. Il a été arrêté avec son épouse. Ils ont été jugés par un tribunal populaire séance tenante et exécutés. Mais c'est des années après que les Romains se sont rendus compte qu'ils ont été trompés. Donc là, déjà, depuis cette époque, il y a plus de 30 ans, les fakes étaient là. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc qu'un journaliste sache faire son travail, qu'il sache faire la part des choses et surtout, qu'il se dise que toute information, aucune information n'est neutre. Toute information peut avoir une connotation ou bien peut avoir des conséquences. Alors cette information qu'on va utiliser, est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle va apporter quelque chose à mon public? Et quelle sera la perception que les gens vont faire de cette information? Il y a tout cela, parce que comme en Bambara on le dit, ce n'est pas le fait de parler qui est grave, mais c'est la façon dont on parle qui peut faire que ce qu'on dit peut être grave et faire mal aux gens.
Vous avez parlé de l'intelligence artificielle, module dispensé dans vos formations. Et aujourd'hui, dans ce domaine, l'intelligence artificielle a un impact sur le métier que nous faisons. Mais comment le journaliste doit utiliser ces outils en bon escient?
L'intelligence artificielle, c'est un danger comme c'est un atout pour la presse. Un danger, un atout, pourquoi? Parce que utiliser à bon escient, ça peut nous servir. En matière électorale, par exemple, dans une rédaction, un journaliste ne peut pas s'asseoir pour éplucher toutes les données qu'il va recueillir. Mais grâce à l'intelligence artificielle, les machines peuvent faire ce travail et le journaliste peut se consacrer à l'analyse. Vous voyez, là, ça peut faciliter. Mais attention, parce que dans certains milieux, on commence à utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer les journalistes dans le cadre de la présentation, par exemple. Et il y a des journalistes qui ont cette fâcheuse habitude qu'ils sont paresseux intellectuellement. Ils font rédiger leur texte par ChatGPT, par exemple. Donc là, ce n'est plus du journalisme, c'est du bidonnage. Donc je pense qu'il faut que les journalistes sachent que quel que soit le perfectionnement de l'intelligence artificielle, elle ne remplacera jamais l'être humain. C'est l'être humain qui est à la base de tout et sachons faire notre travail dans les règles de l'art sans tomber dans le bidonnage.
C'était là Salif Sanogo au micro de notre reporter Fatoumata Koudjo, la Missaitech qui se repose sur le journalisme sensible au conflit.
Nous allons à présent dérouler les tapis rouges pour accueillir notre invité culture.
L'invité culture.
Nous recevons M. Binogo Wuleghem, premier secrétaire aux arts et à la culture de l'association Dina Dogon. Bonsoir M. Wuleghem et merci d'avoir accepté notre sollicitation.
C'est à moi de vous remercier. Bonsoir à tout le monde.
Monsieur Wuleghem, comme annoncé en début d'émission, nous parlons ce soir de la culture Dogon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de l'origine des Dogons?
Merci beaucoup. L'origine des Dogons, comme vous le savez, il y a assez de sources d'informations. Quand on va un peu très loin, il y en a qui disent que nous venons de l'Égypte ancienne. Plus proche encore, en âge, en temps, on dira que nous sommes venus du Mandé pour le pays Dogon. Donc, ces sources sont diversifiées et il y a un travail à faire de recherche pour pouvoir effectivement édifier les uns et les autres. Voilà un peu d'où nous venons. Et nous sommes partis du Mandé. Et avant le Mandé, effectivement, il y avait aussi d'autres histoires. Mais à partir du Mandé, nous sommes allés au pays Dogon et tout le monde convient que nous avons débarqué à Kanibonzon. Et donc, Kanibonzon, c'est la plaine d'abord, Après, c'est les falaises, le plateau.
Okay. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on retrouve les Dogons ailleurs qu'au Mali?
Le Mali, quand on dit, c'est le Mandé. Et l'empire du Mandé, comme vous le savez, le découpage administratif actuel n'a pas respecté effectivement l'espace géographique des uns et des autres, des ethnies. Ce qui fait que vous avez une partie des Dogons qu'on peut retrouver au Burkina Faso. Mais principalement, c'est parce que Burkina Faso, quand on le dit en son temps, jusqu'à Ouaïgouya, c'était le Mali. Et donc, il n'est pas rare de trouver des Dogons un peu dans une partie du Burkina Faso.
D'accord.
Mais principalement, les Dogons, c'est le pays Dogon, c'est Bankas, Koro, Banyagara, Douanza.
D'accord. Alors, comment est faite l'organisation sociale en milieu Dogon?
L'organisation sociale, comme vous le savez, tout part de la famille. Mm-hmm. La famille est structurée, le peuple s'est organisé et vous allez trouver dans une famille un chef de famille, une mère de famille ou encore plusieurs mamans. Parce que au pays Dogon, il y a ce que vous appelez la polygamie. Mm-hmm. Et donc, vous pouvez, dans une famille, d'abord, la famille, c'est le père, la mère, mais la famille, chez nous, c'est élargi. Et chez les Dogon, effectivement, ce qui est important, c'est la communauté. C'est-à-dire qu'on vit en communauté. La famille, elle n'est pas seulement la famille restreinte qu'actuellement on a tendance à voir dans les grandes villes. Et vous voyez que les noms de famille même, quand vous prenez les noms de famille, vous allez prendre l'arbre généalogique, vous allez trouver que les noms de famille changent au fur et à mesure, évoluent. Si vous avez une famille Guindo, vous avez une famille Banu, un exemple, alors à partir de ces noms-là, d'autres noms viennent. Parce que chez nous, on considère que le nom, comme vous le dites, la bénédiction, ça s'achète. Mm-hmm. On le dit. Mm-hmm. Chez nous, le nom, ça se crée, mm-hmm. ça s'achète, ça se mérite, les noms de famille. Je suis de la lignée des Banu. Et dans Banu, vous allez trouver d'autres branches. Et vous allez trouver le Wologem, le Tembeli, le Kasogé, ainsi de suite. Donc les noms de famille évoluent, et ce qui fait que chez nous, il y a dans une même famille, vous allez trouver plusieurs noms de famille. Et c'est comme ça que ça vient. Donc les noms se méritent.
Oui.
Si vous faites quelque chose de brave, votre bravoure est tout de suite magnifiée, mm-hmm. par un nom,
okay.
que toi, tu vas léguer. Mais avec l'administration, ça s'est estompé, mm-hmm. parce que on dit nom de famille. Je dis Wologem, si mon fils porte un autre nom, on dit non, on n'a pas compris.
On sait également que le Ogon a une très grande place dans la société d'Ogon. Vous avez dit que l'organisation même commence au sein de la famille.
Mm-hmm.
Mais qui est le Ogon?
Oui, bon, c'est à partir des patriarches qu'on désigne un Ogon pour la contrée. Quand on dit chez nous Ogon, c'est au-delà du chef. Parce que chef, c'est en français, on ne sait pas s'il y a la correspondance Ogon. C'est pourquoi difficilement on arrive à dire à un Ogon chef. Parce que le Ogon, c'est plus large. Et c'est traditionnel, c'est culturel, ce sont les patriarches qui se mettent ensemble pour désigner. Et si ça s'est fait, généralement, c'est la famille d'où vient ce Ogon. C'est eux qui sont considérés comme effectivement la lignée du Ogon.
Mm-hmm. Ouais. Pour combien de temps?
Jusqu'à sa vie,
mm-hmm.
la fin de sa vie. Quand tu es Ogon, c'est pour la vie, la fin de la vie.
D'accord.
Et après, il y a des cérémonies pour pouvoir effectivement magnifier, remercier de tout ce qu'il a eu à faire. Mm-hmm. Et après, on essaye aussi de trouver un temps qui est quand même large, où les gens vont se mettre ensemble pour désigner un autre. D'accord. Et donc, il y a ces règles qui sont respectées.
Oui. Et on sait également, est-ce que les manifestations qui se font chaque 60 ans, c'est ça, sont liées aux pratiques culturelles liées avec le Ogon, justement?
C'est un peu des rituels que tout le monde, c'est-à-dire que toute génération, c'est-à-dire que ce n'est pas donné à tout le monde de vivre ces moments-là deux fois, trois fois. Vous voyez, quand on parle de siècle chez vous, c'est 100 ans. Mais au pays d'Ogon, le siècle, c'est 60 à 65 ans maximum, parce que c'est en fonction de l'hivernage, ainsi de suite. Et puis, le moment par rapport à la désignation de cette manifestation dont vous parlez de Sigui.
Voilà.
Voilà, le Sigui, c'est chaque 60 ans, c'est admis comme ça, mais souvent ça varie. Et donc, ça se manifeste, c'est une rituelle. Chaque contrée le fait à sa période, pendant un certain temps. Le Sigui peut commencer cette année, ça peut se prolonger 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà, c'est dans le temps.
Qu'en est-il de la cosmogonie et des rituels du masque d'Ogon, M. Ologem?
Vous savez, c'est une société secrète, la société des masques. C'est une société, comme on le dit. Les masques, en réalité, au départ, quand on recule dans le temps, on dit que c'était les femmes qui l'avaient découvert en premier lieu. À partir d'un certain moment, les hommes se sont appropriés. Et c'est un rituel, c'est une fête, une sortie qui se fait lors des manifestations du décès. Vous voyez, c'est un peu l'esprit ancestral, l'esprit du nomo. Et pour nous, l'homme vit et l'homme ne connaissait pas la mort. C'est au fil des temps que l'homme a connu la mort. Et cette mort, on considère que si une personne au pays d'Ogon, elle est morte, et son esprit continue à rester avec les hommes.
Les vivants.
Les vivants. Et donc, pour un peu épargner cela, on passe par des rituels pour pouvoir un peu faire partir cet esprit-là. Et c'est l'âme qui reste autour de nous.
Donc c'est cela, voilà, la cosmogonie.
La cosmogonie.
Merci beaucoup, Aïcha. On va aller en pause musicale. Merci déjà, Monsieur Binogo Willigam, pour ses premières réponses. Nous allons marquer un tempo musical.
Oui, Lala, et nous sommes au pays d'Ogon, mais nous allons faire un grand saut pour nous rendre au Wassoulou.
Et c'est pour retrouver Aïcha, la diva Oumou Sangari, qui nous chante Djanyeba Oufassa.
Thank you.
Aïcha, la belle Aïcha. Mais la chanson, là, elle est censée. Hein?
Je te dis. Hein?
À l'instant, vous allez sur les platines de Mamadou Ouattara, l'un de ses titres emblématiques, sorti pendant que beaucoup ici étaient encore enfants. Hein? J'espère en tout cas que les auditeurs ont bien apprécié. Cela ne se passe nulle part ailleurs, si ce n'est au Club de Tamani, l'émission culture de Studio Tamani.
Ceci dit, Lala, nous allons continuer avec la séance des questions et réponses avec notre invité culture.
Il s'agit bien sûr de M. Binogo Ouelegem, premier secrétaire aux arts et à la culture de l'association Dina Dogon.
Alors, M. Ouelegem, et si on parlait des méthodes de construction traditionnelles dans le pays Dogon?
Au pays Dogon, effectivement, la première impression que vous avez, c'est que l'homme, il a pu s'adapter au milieu. Et comme vous le savez, le Dogon, il habite trois zones, la plaine, le plateau et la falaise. Donc, ce sont des zones où chaque endroit, il y a du matériel de construction. Donc, le Dogon, il s'adapte et il est résilient. Et il est arrivé à s'adapter à chaque endroit. Il construit soit avec de l'argile, de la terre, ou sur les plateaux, les falaises, c'est avec de la pierre et en même temps la terre également.
Savoir voilà. S'adapter à son milieu.
Voilà.
C'est important,
vient,
Lala.
Absolument. Mais d'où vient, c'est un instinct de survie surtout, mais d'où vient cette inspiration-là? Parce que si c'était nous aujourd'hui, on aurait dit non, on ne peut pas habiter ici, allons construire ailleurs.
Quand on vit, effectivement, l'homme tout court a pu, effectivement, par nécessité, pu se frayer des choses pour pouvoir vraiment se protéger.
On dit également que les Dogons ont une très grande connaissance, un très grand savoir sur l'astronomie. Je me trompe?
C'est un constat. Comme vous l'avez bien lu la littérature, les Dogons, effectivement, c'est à travers d'ailleurs cette connaissance-là que chaque fois qu'on a parlé de Sigi, on l'annonce. Mais il y a ceux qui savent lire les étoiles, c'est eux qui, effectivement, annoncent la date exacte. Nous, on est dans l'à peu près. Mais eux, ils sont dans la précision. C'est pourquoi ça a été effectivement révélé qu'avant les grosses microscopes, l'homme Dogon avait cette capacité de pouvoir se situer à travers la lecture des étoiles.
Alors, M. Ouelegem, la médecine traditionnelle Dogon est aussi assez développée. Est-ce qu'il y a des initiatives pour sa valorisation?
Il y a eu et ça continue. Nous allons reculer dans le temps. Nos arrière-grands-pères, c'était... Vous savez que dans le milieu Dogon, c'est l'organisation en général, c'est les chasseurs. Le chasseur, quand on le dit en français, c'est diminutif. C'est les Dana,
ah, okay.
Les Donzo. Mm. Le Dana, c'est un peu un maître qui connaît les plantes, qui connaît la nature, qui sait qu'est-ce qu'il faut utiliser pour soigner telle ou telle chose. En plus de ce que nous faisons au village, l'État aussi s'était intéressé à cette activité pour pouvoir un peu répertorier au pays Dogon, puisque chez nous, à 90% en son temps, les gens se soignaient à travers les thérapeutes, aussi bien les femmes et les hommes. Par exemple, le Centre national sur la médecine traditionnelle avait identifié et répertorié nos sages Dogon qui menaient ces activités. Ils ont construit avec des partenaires à Banyagara, un grand centre où on a fait venir tous les tradithérapeutes avec leurs recettes. Et ces recettes-là ont été capitalisées. Je prends notre défunt professeur Ouara Doumbo, qui est un petit-fils d'un tradithérapeute qui est allé aussi à la médecine. Quand il a fini ses études, il s'est intéressé à cette question aussi, par rapport au paludisme, par rapport à plusieurs maladies. Et nous, au festival culturel Ogobanya, chaque année, nous avons identifié aussi, répertorié quelques doyens qui viennent chaque année et ils font des prestations. Dans beaucoup de cas, ils ont pu résoudre des problèmes.
On va taquiner un peu nos cousins. L'histoire de taux, là, nous n'arrivons pas à comprendre. D'où vient le taux? Et déjà, quels sont, on va dire, les pans qui ont pu être conservés à l'épreuve du temps? et de la modernité dans la culture Dogon?
Je disais quelque part qu'on ne finit jamais de découvrir. Au niveau du pays Dogon, quel que soit le temps, le moment où vous arrivez, un étranger, à une heure près, vous avez un repas qu'on vous offre. La femme, c'est celle qui prévoit. Premier repas, comme on le dit chez nous, on dit le repas le plus âgé, on dit Anyakamu. Andikam, elle a parlé de taux. Le taux, c'est le mil. Nous, on ne connaît pas le sorgho, on ne connaît pas le maïs. C'est le mil qu'on connaît. Et le mil, hier et aujourd'hui, vous pouvez tout faire avec le mil.
Mais pourquoi vous l'aimez quand c'est dur?
Le taux que nous faisons, ce n'est pas pour une journée, ce n'est pas pour deux jours. Ah oui,
c'est vrai que ça se conserve.
Nous, ça se conserve.
Okay.
Et puis, vous allez toujours... quand vous avez fait, la femme a fait le taux, elle se conserve pendant 3, 4, 5 jours. Mm-hmm. Oui, parce qu'on utilise des ingrédients qui font que ça ne se gâte pas. Par exemple, le tamarin, c'est utilisé pour faire la bouillie du taux avant de rendre consistant avec des ingrédients que nos mamans ont les secrets. Vous allez voir qu'une fois que vous avez fini de manger, il y a un peu de vent et puis la partie supérieure sèche. Et ça enveloppe l'autre partie qui est à l'intérieur. Il suffit seulement de revenir, vous enlevez cette partie couverture et vous avez du taux frais. Ça, c'est pour vous dire que
nos
mamans, elles savaient prévenir.
Là, il nous faut ce secret.
Voilà.
D'accord. Alors, toujours avec les femmes, quel est le rôle de la femme dans la société traditionnelle Dogon?
C'est capital. La femme est au centre, au début et à la fin. Parce que chez nous, tout ce qui est grand, on dit na.
Na.
Na. Guinna.
Guinna.
Guinna Dogon. Guinéna, la grande famille, la grande maison. Si on dit, si on qualifie quelque chose de grand, vous allez trouver le na là-dessus.
Qui veut dire grand?
Voilà. Ça veut dire que nous, la mère, la femme, c'est vraiment le début et la fin.
Elle est sacrée.
Okay.
Voilà.
D'accord.
Donc quand vous regardez même dans la société des masques, à la sortie des masques, vous voyez généralement une ou deux sœurs qui sortent avec une louche. C'est les sœurs des masques. C'est elles qui donnent la voix. En plus, des vieilles personnes, des personnes âgées qui encadrent les jeunes qui portent les masques et qui initient ces jeunes dans un langage qu'on appelle le sigiso.
Le sigiso.
Et ça, c'est un langage secret des masques. Bien que célèbres pour leur sculpture en bois, vous avez les Dogons sont peut-être mieux connus pour une cérémonie que nous appelons cérémonie funèbre appelée le dama. Alors le dama, c'est destiné à aider le défunt à faire la transition du monde des vivants vers le monde spirituel.
D'accord.
Vous voyez? Donc, cette fête-là, c'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de gens connaissent les Dogons à travers les masques.
Absolument.
Et ces masques sortent pour un peu remercier les morts. Et c'est à l'intention des morts qu'on fait sortir les masques.
Comme vous l'avez dit, c'est une affaire de personnes initiées.
Oui.
Parce que avoir la hauteur sur laquelle les gens dansent là,
c'est pas évident.
Oui, c'est un peu... Vous savez, notre culture, elle est riche, elle est variée. Il va falloir à ce qu'on s'y intéresse.
Merci une fois de plus, M. Binogo Oleguem, pour toutes ces précisions. Franchement, nous avons appris pas mal de choses aujourd'hui sur la culture Dogon. Mais vous restez avec nous car l'émission n'est pas finie.
Oui, là, nous allons de ce pas prendre le chemin des stades.
Nous allons à présent lever les voiles sur les secrets du sport, les enjeux cachés et les performances qui ont marqué les esprits. Et pour cet exercice, nous pouvons bien sûr compter sur Khalifa Guita, notre sportif maison. Khalifa, bonsoir.
Bonsoir Lala, bonsoir Aïcha et bonsoir à tous nos auditeurs.
Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu de l'actualité sportive ce soir?
Un plaisir de vous retrouver au menu la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On abordera toujours en sport la 15e journée du championnat national de Ligue 1. On parlera aussi du cyclisme.
Le Mali a battu ce jeudi soir par le score de 3-0 les Comores dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qualifa.
Cette rencontre était cruciale pour le Mali dans la course à la qualification. Les Aigles se sont largement imposés par le score de 3-0. Néné Dorgelès a ouvert le score pour le Mali à la 21e minute. Après la mi-temps, le Mali dominait toujours la rencontre. Kamori Doumbia a réussi à inscrire deux autres buts à la 55e et 63e minute. Le Mali compte désormais 8 points et est à 2 points du leader, le Madagascar, avec 10 points avant le match Ghana-Tchad qui est prévu tout à l'heure à 19h. Cette cinquième journée marque la fin de la phase aller de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Mali jouera contre la Centrafrique le lundi lors de la sixième journée, toujours au Maroc. Par ailleurs, Adama Diefla Diallo, le sélectionneur de l'équipe des moins de 17 ans, a retenu 24 joueurs pour la CAN de la catégorie au Maroc du 30 mars au 19 avril 2025. La délégation malienne est arrivée tôt ce vendredi matin en Tunisie pour un stage avant de rallier le Maroc. Le Mali est dans le groupe 2 avec la Côte d'Ivoire, l'Angola et l'Afrique du Sud.
Et Khalifa, toujours en football, les dernières rencontres de la 15e journée du championnat en hommes se sont jouées le mardi. On en sait plus sur les résultats complets.
Cette journée a été fructueuse avec 16 buts inscrits en 7 matchs, dont 6 victoires et 1 nul. Aucun but n'a été marqué lors de la rencontre entre Afrique Football Elite et USFAS. Le Stade Malien de Bamako, l'US Bougouba et l'AS Police ont respectivement battu l'AS Real de Bamako, l'AS Korofina et les 11 créateurs sur le score de 3-0. L'Union sportive de Bougouni a enchaîné un deuxième succès en s'imposant 1-0 contre l'AS Bakaridjan. Le Djoliba AC a gagné 2-0 contre les Étoiles du Mandé, tandis que le FC Diara a largement dominé Binga FC 4-0. Après 15 journées, le Djoliba AC est en tête du classement avec 34 points, suivi du Stade Malien de Bamako avec 31 points, tandis que les Étoiles du Mandé occupent la dernière place avec 9 points.
Changeons de discipline cette fois-ci pour parler du skilisme. Le Grand Prix Skiliste ORTM aura lieu le 6 avril prochain à Bamako.
Il s'agit en effet de la toute première édition de cette compétition organisée en partenariat avec la Fédération Malienne de Cyclisme. Les cyclistes du Mali, du Burkina Faso et du Niger, membres de la Confédération des États du Sahel, s'affronteront sur une distance de 120 km le long du boulevard de l'Indépendance et à Kati. Les 20 premiers du classement final seront récompensés. Une semaine plus tard, le Mali accueillera l'édition 2025 du Tour cycliste international du Mali avec la participation des meilleurs cyclistes du continent. C'est tout ce qu'on pouvait retenir pour aujourd'hui.
Merci Khalifa Gouita pour cette page bien fournie de l'actualité sportive.
Et nous allons l'accompagner en musique, Aïcha, c'est quand même une tradition ici.
Effectivement, là, nous partons dans l'Adrar des Ivogas pour retrouver Ahmed Aga Kaidi.
Thank you.
musique n'a pas de frontières. Nous venons d'écouter là Ahmed Agkaidi. Il a chanté en tamashek, mais tout le monde a esquissé quelques pas de danse dans ce studio.
Ah oui, nous sommes tous d'accord. Nous faisons de la place pour Moussa Malé Sissoko, à présent Lala, qui va nous faire le résumé de l'actualité de la semaine en Bamanankan.
La revue de la presse.
Sissoko. Koli bashitila.
Alhamdulillah.
Ay wa ni so ndale kon bibi simila ko kura. Ala kuma so kon nana.
Ay re parle no bi. Ana ko frogia.
Fere ni so ndale no ka aw soro ko kura.
E se bitari maja Aisha. Suno musa male parle no dungu dungu.
Ay sumo lo sirie we ni yema.
Otu wala El Hadji Anklo bi la mu mi bolo bi ala me bawi.
Lala jara ture nyente ke do kuna foni palan wono borani e bumako ko kon nao ani fose baw la boliko de kan. Dok ni kon nana u da sero de makacha.
Ay wa musa male babu kelen de bi bolo tananyi.
Tiendo. Ko wo fose o bara o laboli ani kokona o bamako konana o bara o bolodara jamana nye mau ye fere krengreninta wala sa kokona o ani nyamambe yoro munna kosbe ni mau tarasigi jibol siraula koko konna o bela jere jibol sirau bla kateme ni hakilna intarasa wala sa bamako nisan nana salo be hakli bala jie cheni minke ko nyina wala sa ni yoro ko folen na nuka seka la bla mali actu ka fola kuna fondi so wera fene bobulolo san fe no e abamako e ale fene signa o kuma kulene ka akoko bamako ki nyeba la ko yoro chama be ko kelembe ka gele abala se mauma ko ni jama joro no ani bedawla mau kelembe ka ke o ni do e do e jibol sirawi ani koko nawi do fene ye tren sirai Arai kreflao, do fene ye anga fore klase ouye, fukata se seneke yoroma, ani bagamara yoroma. Enfo maten ale ko ko nimbara yente blada grendala ko soni dron abena damne. Ko sabla barake bolo mimbe na ako nun bela jelen sigi senka ou sigira ka ban. Mali tribune ale fene a iraka fo ko nimbara yeminake sani samia were natache. Ko jizon ye tiyan ni bareke salon samia la bamako. Ode kama jamana nyema wula kujo ujorola ninkoina. O kunafoni dira directeur national de l'urbanisme fe ani kunafoni dila uka masalali la juma temene mie independant ye nale kunafoni disoye akoko ni bara metalike ka maula wuli ni jiboli sirao ani koko naula bara menase mamunu ma agachani moko keme olonvlaye independant ka marsikalo tletan olonvla bolila akoko ni yoroko fole nuna ko nun kelembe ki sigi jiboli sirao ani koko nau ko lugren ode kama jizombe bo kachenike bamako sigi chogo urbanisme fe ani plami bora olusima la bato independanga fola mi 22 septembre ye akoko kon baran numena nyeshi yorotani kelendema koko nao bola fose bao be yoro mununa ani jiboru sirawrew ka barao bela jele ni afra nyonka akachani se favori miliar sabaye zenit bale ale fene ya iraka fo ko barain konona na ko so binachi ani kiosu munu be ko dau ani koko nao la binachi ko metre temps orebna bla ko ani mauka so ni nyonche ko metre mugani duru orebna bla jiboru sirabao nanguma kolekteru ani mauka so ni nyonche mi Republicain ale koko mauka so chili ko so valer na duma de nga ko musaka dobe duma ukaseka bo uyerela ayofo aka marsikalo tle mugan boli la samba fla ani mugan duru temene Republicain ga fola alsa ko sefawari million keme ani tani saba ode la blala mali ministre so fe minga baranya shinebe musaka ko ani na folokoma wala sa ka ni manunu sengoromado kalo saba konana sanuka kunda rosoro ode dansiki anga bi revue de la presse la lala jaratule
emite musa malika ni kunafonia nunu bela jalina ambe kambe danyoni dokunwere ni ala manga jonya jana dernière ligne droite de cette émission avant de rendre l'antenne nous allons donner la parole à notre invité pour conclure monsieur Willigem est-ce qu'il y a des choses importantes que nous n'avons pas évoquées et que les auditeurs devraient savoir
comme vous le savez on peut pas tout dire Et ce qui est clair, c'est que je suis arrivé ici au nom de notre association Guina Dogon. Et l'association Guina Dogon, son rôle, c'est que nos devanciers ont pensé créer cette association parce que c'était un constat que le milieu Dogon était un peu agressé. De par des convoités, mais dans cette convoitise, il y avait aussi des interdits qui étaient en train d'être sur lesquels les gens n'étaient pas en adéquation avec. Donc, Il fallait créer une association et cette association, on l'a dénommée Association pour la promotion et la protection de la culture Dogon et sympathisants, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le Dogon, il ne s'est pas vendu lui-même. C'est les autres qui sont venus, d'ailleurs, qui sont venus apprendre, chercher à comprendre qui nous sommes et essayer d'écrire sur nous. Nous avons été connus par les autres à travers d'autres personnes qui sont venues connaître ce que nous faisons. Ce qui fait que nous avons créé cette association. Et l'association, en réalité, son objectif, c'est quelque chose de séquentiel. Si nous avons organisé un festival en plein Bamako avec, pour un peu magnifier notre culture, c'est un peu pour faire connaître, amener la culture vers les gens, puisque aujourd'hui nous sommes en insécurité, les gens vont peu vers nous, compte tenu de la situation, mais si nous, on amène la culture vers la population, et parler de notre culture, faire connaître notre culture, découvrir, en même temps associer les autres associations communautaires pour pouvoir un peu prendre aussi de ce qu'eux, ils ont.
Voilà. Objectif très, très noble. Merci. En tout cas, vous l'avez dit, le temps imparti est déjà fini. On ne pourra pas tout dire ce soir. Mais on espère vous retrouver très bientôt, très prochainement, sur un autre plateau pour développer un peu plus tous ces aspects que nous avons abordés ce soir. Et nous allons finir par cette pensée du sage de Banyangara qui dit « La beauté d'un tapis réside dans la diversité de ses couleurs. S'il n'y avait que du blanc, ce serait un drap blanc. Et s'il n'y avait que du noir, ce serait un pagne de deuil. » Merci à vous, fidèles auditeurs, d'avoir prêté oreille attentive. Madou Ouattara a assuré la mise en onde, coordination Mariam Maïga, à la présentation Lala Diarra Touré et Aïssata Diarra. Prenez soin de vous et des autres. À très vite pour un autre numéro.